Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Merci d'écouter Studio Tamani, il est 8h à Bamako et partout au Mali. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici le journal. 18 août 2020, 18 août 2021, un an que l'ancien président Ibeka a été renversé. Pour des spécialistes sur le plan sécuritaire, la situation demeure préoccupante. Dans son adresse à la nation, le président de la transition a indiqué que son ambition est de sécuriser le pays et d'organiser des élections crédibles. Le trafic des gros porteurs et des cars de transport sur l'axe Mali-Sénégal a été suspendu par le syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali. Cette décision fait suite à l'accident qui a fait le week-end dernier 4 morts à Kaolack. Cannes-Cameroun 2021, le tirage au sort s'est effectué ce mardi à Yaoundé dans la capitale camerounaise. Le Mali sera dans la poule E en compagnie de la Gambie, de la Mauritanie et de la Tunisie. Le développement de ce titre avec Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Mercredi 18 août 2021, il y a un an que le président Ibrahim Boubacar Keïta a été contraint à la démission par des militaires. Un coup d'État survenu à la suite de plusieurs semaines de contestation populaire. Dans une adresse à la nation de quelques minutes, le président de la transition a rappelé les circonstances qui ont prévalu à ce coup d'État. Le colonel Assimi Goïta a déclaré que l'ambition de la transition consiste à sécuriser le pays pour le développer, le doter de textes et d'institutions crédibles pour instaurer une gouvernance vertueuse. Aussi a-t-il ajouté, il s'agira de réussir des élections transparentes aux résultats incontestables et raffermir la cohésion nationale. L'une des raisons qui ont précipité la chute du régime Ibrahim Boubacar Keïta est la dégradation de la situation sécuritaire. Alors, un an après son départ, quels sont les changements constatés en termes de sécurité? Des spécialistes des questions sécuritaire affirme que la situation demeure préoccupante et précaire. Il préconise aux nouvelles autorités de renforcer la confiance entre les populations et les forces armées maliennes d'une part et d'autre part de maîtriser les facteurs réels de cette insécurité. Moussa Malé Sissoko.
Pour Baba Dakono, l'insécurité persiste toujours dans le pays avec une grande capacité de nuisance des groupes armés terroristes. Le secrétaire exécutif de l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité prône la bonne gouvernance comme un des remèdes à l'insécurité.
Non, il n'y a pas de changement fondamental. Oui, ce sont les mêmes pratiques qui demeurent. C'est toujours une insécurité précaire. Il est important de disposer d'une solution globale qui prend en compte non seulement les aspects purement militaires, les facteurs sur lesquels prospère l'insécurité sont liés à la gouvernance, sont liés à la politique, sont liés à la question de la justice. Tant qu'on n'a pas pris en compte ces différents facteurs-là, c'est très difficile.
Quant au sociologue Ali Tunkara, il déplore le manque de confiance entre les populations et les forces armées maliennes. Le directeur du Centre d'études stratégiques au Sahel recommande à la hiérarchie militaire l'exemplarité et la bonne conduite vis-à-vis des communautés.
L'efficacité des réponses apportées par les militaires reste fait limitée, ce qui est extrêmement important aujourd'hui pour l'élite militaire au pouvoir. D'abord, d'accepter, c'est faire pas mal de sacrifices en termes de comportement à tenir face aux Maliens et contribuer à la fourniture et à la collecte de renseignements qui pourrait permettre à l'action militaire de devenir davantage efficace et pertinente.
Rappelons que le coup d'État contre le régime Ibeka a été perpétré par un groupe de soldats dénommé le Comité National pour le Salut du Peuple basé au camp Sundiata de Kati. Ce comité était dirigé par l'actuel président de la transition, colonel Assimi Goïta.
À Ansongo, dans le nord du Mali, de nombreux habitants estime que le constat est amer sur le plan sécuritaire un an après la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ils estiment que l'insécurité ne fait que prendre de l'ampleur tant au nord qu'au centre du pays. Ils sont au micro de notre correspondant à Ansongo, Issoufa Moussa.
Ça ne va pas parce que les braquages ont commencé et finalement avec l'attaque des villages de Ouattaguna, Karou et autres là, vraiment tout a chamboulé.
Bon, selon moi, il n'y a pas eu de changement et ça s'aggrave aussi, surtout dans les cercles d'Ansongo.
Pendant que Ibeka était là, les attaques se font rares. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les cars ou bien les véhicules de transport qui sont attaqués. Il y a les véhicules de transport, les véhicules personnels, il y a aussi les villages qui sont attaqués.
Pas eu vraiment de changement. Il n'y a pas eu d'amélioration, ça ne fait qu'aggraver. Puis tout le monde est au courant que ça ne va pas.
Bon, franchement, parler sur le plan sécuritaire, il n'y a pas grand constat à faire. Parce que nous avons porté notre regard sur les militaires, sachant qu'ils vont venir au pouvoir et pouvoir faire quelque chose, surtout dans le plan sécuritaire. Hélas, le constat aujourd'hui est amer.
8h05 à Bamako. Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Comment rendre plus efficace l'intervention de la force conjointe du G5 Sahel? La question est au centre d'un atelier du G5 Sahel organisé ce mardi à Bamako. Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté aussi sur la mise en œuvre des recommandations de Niamey de décembre 2019. Les détails dans ce reportage de Draman Maïga.
Ces échanges visent à poser un cadre légal pour renforcer les opérations militaires de la force conjointe dans les 5 pays du Sahel. Pour Abdul Salam Djagana, chargé de communication du G5 Sahel, il s'agit de trouver un cadre juridique pour renforcer les missions de la force conjointe dans le respect des droits humains.
C'est de catégoriser les actions et recommandations de la traite de Niamey qui réunit des magistrats, des gendarmes, policiers ainsi que d'autres éléments importants appuyés donc par la communauté internationale. Premier l'administration de la force conjointe du G5 Sahel.
Pour les participants de cet atelier, ce concept de défense permettra également d'accentuer l'aspect humanitaire. Alioune Menan, chargé de la composante police du G5 Sahel.
La prise en charge de l'ensemble des règles d'engagement du droit humanitaire international dans les aspects des opérations de la force conjointe. Dans ce concept de défense que nous sommes en train de mettre en place, il y aura seulement la prise en compte des aspects humanitaires du droit des personnes qui sont appréhendées par la force conjointe. Elles vont poursuivre la judicialisation d'une manière réglementaire.
Les régions des 5 pays continuent de subir les attaques meurtrières. La plus récente est celle qui a fait ce lundi plus de 30 morts dans un village de Tillabéri, frontalier avec le Mali.
Je vous le disais dans les titres, le syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali, Sinacor, a suspendu le trafic Mali-Sénégal sans pour autant fixer une date de reprise. Cette décision intervient après l'accident tragique qui a causé le week-end dernier à Kaolack la mort de 4 personnes. Les responsables du syndicat justifient cette décision par la sécurité de leurs membres. De son côté, le ministère malien du transport et des infrastructures dément les allégations selon lesquelles le ministère a, dans un communiqué, autorisé la suspension du trafic entre les deux pays. Khalifa Goïta nous en dit plus.
Pour le syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali, cette suspension de trafic ne concerne que les gros porteurs et cars de transport et n'engage que les conducteurs routiers membres du regroupement. Ils expliquent qu'elle ne vise qu'à protéger les chauffeurs, les engins et les biens qu'ils transportent. Souleymane Koumaré, chargé de communication du Sinacor Mali.
On a décrété un arrêt qui n'a pas de fin juste pour nous-mêmes. Et à Kaolack, on a appris que on peut faire venir les camions qui sont chargés, mais arrivés à la rentrée de Kaolack seront escortés par la police. Il faut qu'on nous dise quelque chose parce que ce n'est pas une première fois. Aujourd'hui, on a tous les 1000 problèmes, ça ne va pas.
Le syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali invite les responsables des deux pays à intensifier la carte de l'apaisement.
Il faut que les deux pays essayent de s'asseoir et discuter. Et chacun doit dire à sa population, quand il y a quelque chose comme ça, ça doit se faire défendre par l'autorité compétente.
Cependant, des économistes soutiennent que les conséquences de cette suspension de trafic entre les deux pays seront incalculables tant sur l'économie du pays que sur les populations. Modibo Mao Makalou, économiste.
Le port de Dakar a un rôle vital pour l'économie sénégalaise et pour l'économie malienne. Parce que sur 3 de nos importations et exportations, il y en a 2 qui passent par le Sénégal. Les deux économies sont interdépendantes. Donc il va falloir trouver un terrain d'entente assez rapidement.
Toutefois, certaines sources jointes à Kaolack au Sénégal affirment que le trafic a repris ce lundi entre les deux pays après une suspension d'une journée pour des mesures de sécurité. Du côté de Dakar, on rassure également qu'une enquête est ouverte et les auteurs seront traduits devant la justice.
Khalifa Goïta, parlons de toute autre chose. Le pont de Woyowayanko a été endommagé par les eaux de pluie. Ce lundi 16 août, l'un des garde-fous de cette passerelle qui relie les quartiers Paradis Koroni et aussi Lafiabougou à Sébéninkoro a été emporté par les eaux. Ce passage situé en commune 4 du district de Bamako sur la route nationale 6 est très fréquenté, surtout par le trafic routier Mali-Guinée. Les populations riveraines de ce pont ont-elles aussi subi d'énormes dégâts matériels? Le point dans ce reportage de Mamadou Samassikou qui s'est rendu sur les lieux.
Je n'ai rien retrouvé de mes affaires et outils. Même les téléphones que je devais réparer, les accessoires à vendre, l'eau a tout emporté.
Il s'appelle Ousmane Kansai, un riverain du cours d'eau submergé par le pont. Il est aujourd'hui sans ressources du fait que son kiosque a été rasé par les eaux de pluie. Son voisin Toudo Madi Kamara, qui a subi moins de dégâts, explique que cette situation était prévisible.
Tant que les habitations sont à 5 mètres ou 7 mètres de la rivière, toujours il faut s'attendre à des dégâts. Autre problème, le pont aussi est très court. L'année dernière, ils sont venus 3 jours pour enlever un peu ici. Ça s'est arrêté là-bas. Donc la boue restait toujours entassée. Ils n'ont pas enlevé. Dès lors, on ne sait pas.
Pourtant, la mairie de la commune 4 affirme qu'un projet de réaménagement de ce cours d'eau est en exécution. Et des sensibilisations sont également menées auprès des populations pour éviter les dangers liés à l'inondation. El Kassoum Maïga, deuxième adjoint au maire de la commune 4.
Depuis 2008, la première inondation, on a recensé les gens pour qu'ils puissent déguerpir du cours d'eau. Mais on les déguerpit. Une année après, on revient, on les retrouve à la même place, ainsi de suite. Force doit rester à la loi, mais la mairie vraiment n'a pas tout ce moyen pour faire le piqué pour que les gens ne reviennent pas.
Les inondations de cette année ont aussi fait de nombreux dégâts matériels dans les régions du centre et du nord du pays.
Faisons à présent le point de l'évolution de la maladie à coronavirus au Mali. 4 nouveaux cas positifs, 2 patients guéris et 0 décès ont été enregistrés hier. La situation cumulée est donc de 14 701 cas positifs, 14 022 guéris et 535 décès. C'est ce qui nous conduit à la rubrique Actu Covid présentée par Aïssata Diarra.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 24e numéro de la rubrique Actu Covid dédiée aux questions et réponses. Aujourd'hui, Dr Abdoulaye Guindo, directeur général adjoint de la Direction générale de la santé, répondra à certaines de vos préoccupations sur la COVID-19.
Bonjour docteur, une personne qui souffre de l'ulcère peut-elle se vacciner contre le coronavirus?
Alors, il y a certains produits qui sont connus qui peuvent réveiller l'ulcère ou bien le faire saigner ou bien l'aggraver. Les aliments aussi et surtout la faim qui sont un tout petit peu contre-indiqués pour l'ulcère mais pas le vaccin. Celui qui a l'ulcère peut se faire vacciner sous n'importe quel vaccin.
Bonjour docteur, les femmes enceintes peuvent-elles contracter la COVID-19? Si oui, comment se passe leur traitement?
Tout à fait. Une femme enceinte peut bel et bien contracter la COVID, une femme enceinte, une femme allaitante. Donc le médecin traitant, bien entendu, peut en tout cas l'adapter à son cas, bien sûr. Par rapport en tout cas aux symptômes qu'elle va développer, il y a des traitements appropriés selon vraiment son médecin traitant, en tout cas qui va l'adapter à sa situation en tant que telle.
Bonjour docteur, est-ce qu'il est possible de toucher un nouveau-né quand on a la COVID-19?
Non, pas du tout. C'est pour cela que nous disons que ce soit un nouveau-né, nous disons qu'il faut les protéger, les nouveaux-nés, parce que ça c'est un individu fragile. Alors donc il faudrait éviter beaucoup de toucher en tout cas ce nouveau-né.
Bonjour docteur, une personne qui a déjà reçu le vaccin contre la maladie à coronavirus peut-elle contracter de nouveau cette maladie?
On peut faire COVID-19 après le vaccin, ça a été décrit ça et là. Et donc les vaccins induisent en tout cas un certain nombre d'immunité. Par exemple, il y a certains vaccins qui sont à 95%, il y a certains vaccins qui sont à 75%, tout est connu. Quel est l'avantage de la vaccination? C'est que non seulement ça permet bien entendu de ne pas attraper la maladie dans un certain nombre de mesures. Deuxièmement, si et seulement si le cas que vous venez de dire qui est rare et exceptionnel, mais si cela arrivait, c'est la forme simple, très simple en tout cas qui est là, pas de complications en tant que telle.
Ainsi prend fin ce bulletin d'information sur le coronavirus. Merci pour votre confiance. Le port du masque peut vous protéger de la COVID-19.
Un mot de sport à présent, football. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations s'est effectué hier à Yaoundé au Cameroun. Les Aigles du Mali joueront dans la poule E. Ils auront comme adversaires la Gambie, la Mauritanie et la Tunisie. Le match d'ouverture de cette compétition opposera le 9 janvier 2022 le Cameroun et le Burkina Faso.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Écho de nos régions, une campagne de vaccination contre la bilharziose a démarré ce lundi dans le district sanitaire de Kita. Elle concerne les enfants âgés de 5 à 14 ans. Durant 5 jours, des équipes médicales procéderont par la stratégie de porte à porte pour administrer aux cibles la dose contre la bilharziose. L'initiative est du gouvernement avec l'appui de ses partenaires. La campagne prendra fin vendredi prochain. Le bureau communal de la jeunesse de Kadjolo a offert 4 sacs de 50 kg de riz et de fournitures scolaires à 4 femmes veuves des militaires tombés pour la défense de la patrie. Les responsables du bureau communal ont invité les autorités à accorder une attention particulière à toutes les femmes dont les époux sont tombés au front. L'activité s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août 2021. Et c'est ce qui met fin à ce journal qui vous a été présenté par Sekou Gadjigo à la mise en onde Mamadi Keïta. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite après moi, ce sera Aïssata Diarra pour la version Bambara de cette édition. Vous pouvez réécouter ces informations sur notre site studiotamani.org ou en appelant au 37 321 sur la plateforme Viamo.